Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et on est toujours dans l'émission Ça commence par nous sur Rage. Si vous venez d'arriver, du coup, moi je vous dis bonjour, parce qu'on est poli dans Ça commence par nous. On est dans une émission un peu spéciale en deux parties. Ça reste quand même une émission qui change le monde tous les jours un petit peu plus. Si vous êtes déjà là, vous le savez, on est en duplex depuis le consulat de la Gaîté, qui est un tiers-lieu éphémère et inspirant. Et nous parlons depuis le studio de Radio Gangster qui nous accueille aujourd'hui. Je tenais à les remercier vivement. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission un peu spéciale qui vient clôturer cette première saison de Ça commence par nous. Au total, ce sont près de 30 épisodes que nous avons concoctés avec amour et avec passion tout au long de l'année. Je suis très heureux d'avoir vécu cette aventure avec la fine équipe, bien sûr. Anne-Sophie et Mélanie pour le Média Positif One Art, Hélène pour Edoni. et Fabrice et Raphaël pour Rage. Je dis Edoni parce que du coup, Fabrice dit encore Edoni, alors qu'en fait, vous savez tous, vous qui connaissez passionnément Edeni. Voilà, c'était une super blague. Merci Julien. Pour parcourir, je reviens sur mon fil, pour parcourir cette dernière ligne droite, nous allons sortir un peu de notre zone de confort. Car si toute l'année, nous avons parlé du changement individuel, pendant l'heure qui vient, on va prendre de la hauteur et on va voir comment on peut tous être acteurs du changement, mais aussi du point de vue des associations et des entreprises qui peuvent aussi énormément nous inspirer dans le domaine. Je suis toujours, comme je vous le disais, en bonne compagnie sur ce plateau, entouré de mon équipe de choc. Il y a Hélène, Dédéni, il y a Mélanie, il y a Anne-Sophie de One Art qui nous a rejoint. Et j'ai envie de vous dire, allez, c'est parti pour cette deuxième partie de l'émission. Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et oui, je vous le disais en introduction, aujourd'hui on creuse la question de comment participer à la construction d'un monde meilleur du côté des entreprises, des associations. Et je laisse la parole à Hélène Dédéni, qui elle aussi est une entrepreneuse qui change le monde dans son quotidien. Salut Hélène.
Salut Julien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous interroger aujourd'hui, car j'ai eu pas l'occasion de le faire directement, en tout cas à l'antenne, parce que pour certains d'entre vous, je vous connais aussi en dehors, au sein de l'écosystème ESS. Et donc, vous me connaissez un peu, je suis plutôt joviale et bienveillante de nature, mais l'exigence d'esprit critique que je m'impose en tant que citoyenne, comme de professionnel au sein des formations Edeni, fait que parfois je peux mériter mon surnom de poil à gratter dans l'émission en posant des questions qui peuvent être vues comme désagréables. Alors, elles sont jamais aussi désagréables que la réalité qu'on voudrait parfois nous occulter. On en parlait justement précédemment au sujet de l'alimentation, par exemple. Et surtout, le problème, c'est les impacts plus ou moins directs et même parfois des effets rebonds qu'on peut avoir dans nos activités, qu'elles soient quotidienne ou qu'elle soit professionnelle. Et comme on le disait en introduction, en off avec Karine, l'entrepreneuriat, très souvent, c'est juste être capable de gérer nos frustrations. Et quand on recycle du plastique, par exemple, en fibre textile, par exemple, on repousse essentiellement son arrivée dans l'océan dans une forme encore plus perverse, puisque même plus ramassable et directement ingérable par les écosystèmes, plancton compris. Donc du coup, je me fais une mission ici de ne pas essayer de nous aveugler devant des fausses bonnes idées pour mieux progresser individuellement et collectivement. Puis, on me fait remarquer aussi souvent mes incohérences. Et bien sûr, on a tous nos incohérences. Et surtout, plus on me les fait remarquer et plus je cherche des alternatives positives et l'amélioration. On ne sera jamais parfait ni parfaite, mais cela n'empêche pas de le reconnaître afin que nous ayons toutes les bonnes infos pour choisir nos limites ou nos engagements, mais vraiment en connaissance de cause. Alors l'avantage, c'est qu'ici, j'ai une équipe de choc avec moi, non seulement du côté de la radio, mais du côté aussi de nos invités, et que je sais que vous êtes des citoyens et citoyennes avisés avant des entrepreneurs et entrepreneuses. Et en plus, je vous sais honnête, puisque l'honnêteté intellectuelle qu'on se doit en nous-mêmes, on la doit aussi à nos auditeurs. Et parfois, c'est difficile de dissocier nos exigences d'entrepreneurs du changement, d'un système économico-financier dont nous ne fixons pas les règles et des logiques business pour lesquelles parfois on n'a pas envie de passer, mais c'est comme ça. Alors en plein mondial de foot, cette séquence ne sera pas les yeux dans les bleus, mais les yeux dans vos yeux. En prenant du recul, comment vous considérez votre mission entrepreneuriale au sein de la lutte globale pour un monde meilleur? Et surtout, j'aimerais vous poser la question aujourd'hui, si vous pouviez changer quelque chose qui reste problématique dans votre impact, quel serait-il? Benjamin, toi par exemple.
Bonjour, merci pour cette belle question tout le cheminement que tu as mis pour y aller. Alors, pour essayer de répondre déjà rapidement, moi je fais du jeu solidaire. Le sujet, la frustration de base qu'il y a au fond, c'est l'addiction. C'est vraiment le sujet de fond parce que quand on parle de technologie, nous on veut faire en sorte que quand on joue à un jeu mobile, on aide une association financièrement. Donc essayer de donner plus de sens au jeu mobile. À côté de ça, il y a ce côté, bon en fait, si moi je dis aux gens, plus vous jouez, plus vous avez une asso, ça va peut-être encore empirer l'addiction en se disant, les gars, vous allez passer votre temps à jouer à des jeux mobiles. Ce qui n'est pas forcément le truc le plus épanouissant non plus. Donc ça, c'est une frustration, c'est forcément un questionnement qui souvent m'est revenu, où je me dis, mais à quoi, où je vais et à quoi sert mon activité de créer des care games, donc des jeux mobiles solidaires, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Et du coup, ce côté prise de conscience de nos limites, je l'ai eu vraiment assez tôt à me poser cette question. Et la réponse que je me suis donnée, c'est aujourd'hui, comme tu dis, je sais que je suis imparfait, je sais que je ne vais pas révolutionner tout plein d'usages tout seul. Moi, mon métier, et là où je me positionne et là où je suis bon, c'est que je vais rendre un usage qui aujourd'hui est en énorme expansion. Le jeu mobile, c'est 12% de croissance annuelle, c'est du temps passé de plus en plus, et les acteurs du marché aujourd'hui, donc les studios de jeux, les investisseurs, etc., ils sont pas prêts de s'arrêter vu la cash machine que c'est. Et donc moi je me dis, ok, il y a déjà des gens qui font très bien du serious gaming, il y a déjà des gens qui font très bien plein d'activités de divertissement qui sont pas sur des écrans. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est que toute cette activité qui draine énormément d'attention, voilà, c'est de l'économie de l'attention aussi, hein, et de financement, je vais essayer d'en sortir quelque chose de super positif pour les associations, pour les aider à collecter des fonds, à toucher des nouveaux publics et à mettre plus de sensibilisation sur des causes importantes comme l'environnement, l'accès à l'éducation, l'insertion sociale. Je vais mettre ces enjeux dans des environnements virtuels et faire prendre conscience aux gens que en fait, même ils peuvent être des héros du quotidien grâce à leur activité ludique virtuelle. Après, maintenant que j'ai dit ça, je combats pas du tout contre l'addiction. Et pour conclure, ce que nous on envisage sur notre jeu, c'est de mettre le plus possible en place de sensibilisation au temps passé sur le jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps passé sur le jeu, il y a une petite notif qui peut dire genre attention, ça fait 30 minutes que tu joues, est-ce que tu es sûr de vouloir passer autant de temps?
Là, tu es vraiment dans le concret de ok, ça c'est une limite qu'on pourrait avoir sur un business social à la base, qu'on estime être le meilleur pour nos joueurs, d'être vraiment sur le Schmilblick, donc ce jeu qui va pouvoir reverser de l'argent à des associations. Plus vous jouez en plus sur des jeux plutôt bien faits et intelligents, moi pour en avoir fait vraiment avec de la culture générale, avec des quiz, mais en plus vous essayez d'en parer une des limites premières qui est effectivement cette addiction potentielle.
Exactement, l'autre truc qui m'a aussi aidé avec cette contraction de l'addiction, c'est que le premier jeu qu'on a développé, le Schmilblick, c'est un jeu éducatif, parce que plus on devine des animaux, c'est aussi reconnaître des animaux, reconnaître des fleurs, reconnaître des arbres, c'est quelque chose qui est super important et qui se perd un petit peu. J'entends des gens qui confondent les guêpes et les abeilles alors qu'ils ont 20 ans, je deviens dingue, et ça arrive encore vraiment beaucoup en fait. Donc c'est aussi un jeu éducatif, et quand on devine quelque chose, on apprend quelque chose sur ce qu'on vient de deviner. Après, demain, nous, on va essayer de développer ce principe de care game au-delà de jeux de devinettes. Donc je sais qu'il va y avoir des jeux de sport, de courses de vaisseaux qui vont aussi, j'espère, financer des assos. Et là, ce sera moins des jeux éducatifs, mais ce sera divertissant et utile.
Merci beaucoup, Benjamin. Karine, dans Yes We Green, vous aussi, vous êtes un peu sur l'apprentissage aussi, avec des ateliers très divers. Quelles peuvent être, comme tu me disais en off, vraiment les frustrations qu'on a en tant qu'entrepreneur, et toi, dans l'impact que peut avoir Yes We Green au quotidien, dans son activité, mais aussi toi, en tant qu'entrepreneuse?
Oui, je te disais, la frustration, c'est le lot de l'entrepreneur. On débute, on a peu de moyens, on a plein d'idées, on a une énorme conviction, et les moyens qu'on a derrière, ils sont tellement frustrants parce qu'on aimerait aller beaucoup plus vite. On a, je pense tous, conscience des enjeux. Moi, je suis très très en colère de la rapidité, de la destruction. Tu parlais du plastique, des océans, de tout, du dérèglement climatique. Le Gulf Stream est en train de se ralentir, qui est donc la climatisation de la planète. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est la nouvelle la plus importante pour moi. Voilà, le Gulf Stream, qui est la climatisation de la planète, est en train de se ralentir. Donc voilà.
Ces fameux courants marins
qui traverse toute la planète et qui en fait permet de rafraîchir ou de tempérer nos climats. Et c'est une des causes des graves dérèglements que l'on a et des tempêtes, etc. Donc voilà, j'ai conscience, je suis très très consciente de l'environnement. Et j'ai mon action. Donc mon action, c'est une plateforme qui identifie des acteurs engagés, qui propose des ateliers pour que des citoyens changent un bout de leur quotidien. Cosmétiques, mode, etc. Donc je suis heureuse quand je le fais, quand je vois des gens qui sont super contents, qui n'étaient pas à la base peut-être sensibles à ça, et que par le côté sexy que j'arrive à mettre dans Yes We Green, je les amène à faire, et qui ressortent, ils disent « Ouais, trop bien, je vais le refaire derrière, je vais en parler à mes copines, etc. » Donc là, je suis super heureux. Je me dis, ouais, c'est petit, mais ça y est, je contribue, je fais ma part, en fait. Et j'arrive à calmer ma frustration en me disant, bon, OK, tu fais ta part. Voilà, moi, ma part, c'est je redirige l'économie vers ces acteurs-là, je redirige la visibilité vers ces acteurs-là, je redirige de la connaissance autour de ces nouveaux usages. Voilà, je fais ma part, même si profondément, j'aimerais avoir des centaines de milliers... d'euros d'argent pour aller beaucoup plus vite, parce que c'est quand même un frein, c'est l'argent qui me permettrait d'avoir plus de gens, une plateforme plus blabla et tatati et tatata et rentrer dans Bien un... Sûr. Voilà.
Merci. Et toi Gaëtan, alors comment tu vois cette notion d'impact que tu peux avoir au quotidien dans ton activité ?
Alors nous dans l'activité on a réduit l'impact qu'on avait puisque on a mis au point des bento réutilisables et on a plus de 30% de nos clients qui les réutilisent, donc ils peuvent revenir et on re-remplit les boîtes, donc ça permet de générer moins de déchets. Pour les récompenser, on leur fait une petite réduction.
Tu peux nous redire le restaurant pour lequel tu travailles maintenant ?
Donc je travaille chez Ressources, c'est un traiteur bio dans le 6e. C'est un traiteur du quotidien. La problématique à laquelle on cherche à répondre, c'est comment bien se nourrir en ville en fait. Donc on propose des produits bio, de saison et frais.
Et toi, tu sens que ça a vraiment impacté le fait de travailler là-dedans ? Ça impacte ta vie personnelle ? Est-ce que tu, par exemple, il t'arrive encore d'aller au McDo ou de manger des choses absolument pas ni responsables ni bonnes ?
La question auxquelles un restaurateur ne peut pas répondre de toute manière.
On a tous nos petits moments de faiblesse. il m'arrive de moins en moins ce genre d'extra, mais... Oui, des fois, faut bien céder. Après, bien manger, c'est quand même être en forme, c'est quand même beaucoup de choses. Donc, autant le faire correctement.
Ouais, l'impact, il est évident. Pour rappel, hein, on est autour de cette table, on est confort, on est dans une conversation qui est déjà hyper intense, hein, sur vraiment quelle est la place de l'entrepreneuriat aussi pour changer le monde, mais aussi les postures des entrepreneurs qui sont derrière, leurs questionnements, leurs tiraillements. On a Gaëtan qui travaille du coup pour ce restaurant dont j'ai déjà oublié, Ressources. Tu nous as dit un traiteur bio dans le 6e. On a forcément Benjamin qui est pour les Care Games, dont le Schmilblick, et on a Karine qui est pour Yes We Green. Ne bougez pas, hein, on va avoir une deuxième partie avec eux juste après cette pause musicale qu'on fait. Donc moi je vous dis à tout de suite.
Je te propose un deal, un truc poussiéreux comme un vieux vinyle. Voyage dans le temps, dans ton pasta de l'aisant. Cahier, je le prie pour baiser volé dans le crevané du cou. J'appelle des bisous. Sans histoire, pas de méchant dans le placard. Tu sais, j'ai peur du noir. Un rendez-vous bizarre. Chique et ringard. Encore une tête serrée, placée dans ta cagette secrète. Pleine de bicyclette. Casquette, chewing gum mes pas. Garde tous vraiment les pions. Idole, sucré, souple. Sans histoire. cheveux dans le vent, un frisson fragile, un peu indécent. Trop blanc, comme un bon vieux dont je serai ton ciel. Fleurs acidulées, saveurs comme vanille, on fera comme les grands. Facile.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, c'est positif, c'est concret. C'est tous les samedis, 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, bah voilà, la première saison de l'émission touche à sa fin. Alors nous, on fait le bilan avec nos invités. On est en direct avec... Gaëtan Berthelot, j'ai retenu ton nom de famille, Gaëtan Berthelot de la Ressource, Benjamin Atuil du Care Game et Karine Niego de Yes We Rin. Et moi, je laisse la parole à Hélène Dédény.
Alors, quand on crée un projet, il y a le besoin auquel on répond. Donc ça, on l'a dit, sur les Care Game, sur les ateliers pour vraiment passer à l'action ou sur une alimentation, qu'elle soit bio, qu'elle soit vraiment responsable de saison et qu'elle apporte du bien. Mais il y a aussi comment on y répond. Et ça, ça comprend absolument tout, de la structure juridique qu'on va choisir, à ses locaux, à ses équipes, à son style de management. Et dans l'ESS, on pourrait penser que tout est idéal, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'entends souvent des auditrices et des auditeurs qui reviennent, oh, c'est vraiment génial, ça commence par nous, mais moi aussi, je dois m'engager, je vais créer telle structure, telle association, et puis on va y aller. Mais alors, premièrement, il y a l'idée de complémentarité et de se renforcer les uns les autres plutôt que d'essayer de parceller au contraire une offre et une réponse à un besoin. Mais une fois qu'on a choisi ce besoin auquel on veut répondre, en rejoignant une structure ou en créant la sienne, bah, y a tout ce qu'il y a à côté, ça va être compliqué, il va falloir ouvrir un compte, il va falloir faire beaucoup de choses. Et vraiment loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est important aussi on est là pour ça, dans Ça commence par nous, de vous montrer la vraie vie, hein. On est comme tout le monde, on n'a rien d'extraordinaire et surtout on incarne, on prend le métro, on va faire de l'handisport, on va voir les réfugiés, on essaie de manger bio, local, de saison, on fait des ateliers, on a des car games sur nos smartphones, mais tout ça, y a aussi tout ce qu'il y a autour. Par exemple, on peut essayer de lutter contre les discriminations dans son asso, tout en étant une dizaine de collaborateurs venant de l'exacte même classe sociale, voire classe tout court parfois, hein. Tout à l'heure on parlait de l'ESSEC. On peut lutter contre les perturbateurs endocriniens tout en étant dans des locaux amiantés et mangeant dans des contenants en plastique. On peut lutter contre les violences faites aux femmes tout en les reproduisant sur les animaux via l'alimentation de nos équipes, par exemple. Bref, assumé ou non, conscient ou non, les impacts de la création de nos projets de sens n'est jamais neutre. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise, moi, j'ai des limites aussi exactes, comme en termes de recrutement inclusif, par exemple, et en termes de finances, parce que Edenis est une association et il y a aussi une partie SAS. Et la finance éthique, elle est très compliquée en France actuellement, même si on a reçu la Nef, on peut parler aussi du crédit coopératif, mais c'est pas simple d'avoir vraiment une finance 100% éthique. Donc moi, j'avais envie de vous interroger, là, d'avoir la chance de voir revenir nos invités, revenir sur ce plateau de Ça commence par nous, et bien pour vous interroger sur cette partie dont on parle peu finalement, de vos fiertés. Cette fois-ci, on va pas parler des limites, vous nous les avez déjà présentées, mais vraiment de vos fiertés d'incarnation, de quelque chose, une valeur que vous avez réussi à mettre en place dans vos structures et que vous voulez nous partager positivement et dire ça, c'est pas mon core business, mais à côté j'ai réussi à le faire quand même et j'en suis fière. Karine, est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus?
Alors, je vais rebondir sur ce que tu poses comme problématique, comme idée. C'est effectivement, on prône un monde merveilleux, on se bat pour. Ouais. Effectivement, pour le mettre en œuvre en même temps dans la structure. Donc, Yes We Green est une entreprise, effectivement, c'est un vrai job, quoi. C'est un vrai job et on se rend compte des fois qu'on peut s'en éloigner. Donc, j'en fais partie, que des fois, je suis tellement dedans que je peux m'éloigner aussi de ce en quoi je crois et je suis plus. Et tu parlais de management, etc., que je peux être trop speed, trop stressé, j'ai trop de galères, etc. Et du coup, je le fais vivre, comme tu dis, aux équipes. Mm. Je mettrai une grosse donnée dans tout ça qui est, moi je ne suis pas née entrepreneur, je n'ai pas fait une grande école, je me suis fait toute seule. J'ai appris, à chaque fois c'est mes métiers ou les défis qu'on me foutait devant et que j'ai grandi et j'apprends au fur et à mesure. Donc en fait, je suis vraiment dans une démarche, j'apprends. Du coup je fais comme ça, là j'essaye, là, j'avance et puis tac, j'ai vraiment des moments où je fais du stop. Là, je me dis, j'en suis où ? Voilà, en termes de management, je suis en train de chercher de la ressource pour me faire aider, en fait. Parce que je trouve que ce que je fais, je me trouve pas bonne, quoi. J'aimerais faire autrement.
Mais tu pratiques de la méditation, par exemple, pour...
La respiration.
La respiration.
Ouais, la respiration, je fais de la trottinette, ce qui sont vraiment des moments pour moi de lâcher prise, etc. Et de quoi je suis fière au sein de mon collectif que j'ai créé, puisque je crée un collectif dont j'ai la responsabilité, j'ai conscience que j'ai la responsabilité. Je sais pas, moi j'ai des valeurs de récup, de faire attention à ce qui m'entoure, etc. Voilà, donc j'ai à ce qu'on mange, et c'est vrai que dans le lieu auprès de l'équipe, et j'avais des jeunes dans l'équipe qui n'avaient pas peut-être obligatoirement ça à ce niveau-là où moi je l'ai, et c'est vrai que je les ai fait basculer, et c'est vrai que maintenant ils se marrent avec moi à trouver des trucs dans la rue. On a ouvert une boutique, tout dans la boutique est récupéré dans la rue.
Génial.
Je fabrique tout, c'est-à-dire je récupère des cagettes parce que je veux faire des étagères. En fait, c'est inné chez moi, ce truc-là. Et en fait, je leur ai transmis ce côté ludique de la récup. Et ce côté, on se marre et ça peut être beau. Et en fait, ce en quoi je crois vraiment et qu'il y a un vrai regard différent sur ce qui m'entoure, sur les objets, sur la consommation. Et voilà, si j'ai une fierté, c'est celle-ci. Et après, j'ai plein de choses profondément à améliorer. Et j'en ai super conscience.
Ça tombe bien, on est tous imparfaits. Hein. Je crois que là, vraiment, à ce niveau-là, on aura encore du boulot. Gaëtan, toi, tout à l'heure, tu nous parlais des bentos. Tu étais assez fier des bentos que ramenaient les clients pour être réutilisés. Ça faisait moins de déchets. Est-ce qu'il y a d'autres fiertés comme ça que tu as dans tes...
En fierté personnelle, ça serait le fait d'aller maintenant au contact du client, puisque en fait, c'est une vitrine ouverte sur la rue. Et c'est nous qui servons les gens, donc on peut expliquer nos plats, expliquer comment on les a cuisinés et écouter aussi les retours des personnes et apprendre à mieux les nourrir à leur contact, en fait. Parce que quand on est en cuisine, moi je viens de la gastronomie, on est enfermé dans sa cuisine et le contact qu'on a, c'est les serveurs et la salle, en fait. Et le fait d'aller vraiment au contact des clients et de prendre les points positifs et négatifs en direct, sans filtre, c'est vraiment génial.
Et toi, Benjamin, au sein du Schmilblick et des Car Games en général ?
Tout en étant conscient qu'on a toujours des marges d'amélioration énormes. Nous, par exemple, on est en train de passer en agrément ESUS, on est une SAS, et ça, je trouve ça hyper important, et c'est un modèle qui correspond énormément.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le label ESUS, donc c'est le label des entreprises sociales et solidaires, c'est simplement mettre dans ses statuts différents critères, différentes contraintes à respecter. La première, évidemment, c'est de répondre à une mission d'intérêt général, donc d'aider des personnes dans le besoin. Nous, en l'occurrence, des associations qui elles-mêmes aident des personnes qui en ont besoin, ou ça peut être aussi l'environnement, évidemment. Et ensuite, il y a des règles, par exemple, d'écart maximum de salaire au sein de la société. Aussi 50% des bénéfices qui sont réinvestis dans le développement avant d'aller potentiellement des actionnaires. Et pour moi, je trouve que c'est un modèle qui est assez prometteur et qui correspond pas mal à ma vision d'entrepreneuriat social, qui est de se dire qu'il faut vraiment mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et donc ça, c'est déjà, c'est on the way, quoi. On n'a pas encore fait ça, mais on est en train de le faire et c'est déjà pas mal. Et sinon, une autre fierté, c'est aussi, c'est un peu lié à notre produit, mais c'est quand même quelque chose auquel je m'attendais pas. Là, je l'ai vu hyper récemment, en fait, hier, des étudiants qui travaillaient sur donc de l'université de Sarcelles, qui travaillaient sur notre plan de communication. On a été choisi comme sujet d'étude pour un cours dans ce master. Je remercie la professeure de nous avoir invités, c'était vraiment génial. Et notamment, il y avait des idées de communication digitale, etc. Notamment un jeu, souvent des idées de jeux concours. Il y a des étudiants qui nous ont dit, on va pas faire gagner un iPhone, même si ce serait trop cool, parce que c'est pas dans les valeurs du Schmilblick. Et alors que, je pensais pas que les valeurs avaient autant infusé dans le jeu et qu'il y avait vraiment.
Qu'ils avaient compris vraiment ce que tu avais voulu.
Que vraiment, ça avait été jusque-là dans la compréhension de ce qu'on voulait développer comme modèle. Bon, après, il y avait tous les autres groupes qui proposaient des tablettes et des iPhones parce qu'ils trouvaient que c'était les cadeaux qui allaient mieux marcher. Et en fait, en termes de pragmatisme économique, c'est peut-être le concours qui marcherait mieux. Mais le fait qu'il y ait un groupe qui nous propose ça, j'ai été surpris et assez fier, assez ému en fait presque. Voilà, une petite fierté.
Génial. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir animé cette table ronde qui était passionnante. Pour rappel, on avait Gaëtan Berthelot de la ressource, je vais y arriver. On avait Benjamin Atul de Caregame et du Schmilblick. On a eu Karine Niego de Yes We Green. Ils reviennent avec nous tout à l'heure pour le débrief. Je commence à vous poser cette question. Moi, j'ai envie, pendant le débrief, qu'on se partage des cadeaux. Et réfléchissez à un tout petit cadeau, un bon plan, un événement auquel vous allez assister, un événement inspirant, peut-être un bouquin absolument à lire pendant l'été, de manière à ce que, entre nous et puis forcément pour les auditeurs qui nous écoutent, ils reçoivent ce cadeau et qu'ils puissent continuer à être inspirés, même quand Ça commence maintenant ne sera plus là. Et avant ça, on va retrouver, nous, tout à l'heure, les copines de One Art qui, elles, exploreront comment on peut agir aussi du côté des associations. Et ça sera après la musique.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et on est toujours dans cette émission Feu d'artifice de Ça commence par nous pour clôturer la première saison. On a décidé de laisser à nouveau la parole à nos anciens invités pour profiter de leur expérience d'acteurs du changement. Avec Hélène, nous venons de voir que construire un monde meilleur, ça pouvait venir du monde de l'entreprise. Et moi, je laisse tout de suite le micro à Mélanie et Anne-Sophie du média positif OneArt qui vont recueillir le point de vue des acteurs du milieu associatif. On a avec nous Clément Debosse de La Fourmilière, on a avec nous Alix Bondon de Viacti et forcément Jean-François Réco de Biocycle. De Benenova. Et oui, Alix me dit non, pourquoi j'ai dit Viacti? On en parlait juste avant. Alix Vendon de Benenova, mais vous le savez tous bien évidemment. Je vous laisse la parole, les filles, allez-y.
Bonjour tout le monde, donc je suis avec Anne-Sophie aujourd'hui, c'est la première émission où on anime ensemble, donc c'est cool.
Une certaine émotion aussi.
Ouais, et donc pour rappel, OneArt, sur le OneArt.fr, on recense des acteurs associatifs et on travaille beaucoup avec des associations, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend la parole et on va vous poser quelques questions sur le secteur associatif et en savoir un peu plus sur vos points de vue, vos façons de penser, comment vous vous êtes lancé, enfin voilà.
Et notamment, ouais, la première question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ?
On va
commencer par les filles.
Exactement.
Qu'est-ce qui nous a poussé à changer les choses ? Je dirais que le premier impact, c'est des observations en fait qu'on a eues sur le terrain. C'est que au fur et à mesure des rencontres qu'on a pu faire avec des citoyens, on s'est rendu compte que aujourd'hui le milieu associatif est assez cloisonné et que le premier pas, la première porte, avait besoin d'être ouverte pour l'engagement bénévole. Et d'un autre côté, les associations avaient besoin aussi d'être accompagnées vers cette ouverture. Et pour que chacun puisse être acteur du changement, il faut que cette porte soit ouverte. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on facilite les choses, il faut qu'on fasse ce pont, qu'on fasse ce lien, qu'on permette à chacun de s'engager facilement. Et c'est ça, c'est par une observation et par la croyance forte que chacun peut changer les choses à son échelle.
Super, ça commence par nous, et c'est ce qu'on se dit, ça commence par moi. Toi, Jeff, comment tu t'es lancé ?
Ben c'est vrai, en fait, c'est en écoutant sa voix intérieure. Je suis d'accord avec Alix, ça passe par les observations, mais c'est surtout faire écho avec soi-même et de ressentir un petit peu les choses, avec un sentiment assez fort sur l'indignation, de se dire voilà, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne font pas sens, notamment sur le gaspillage, c'est vrai, ce qui concerne Biocycle, et surtout sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui dépendent de l'aide alimentaire, ça n'alimente pas correctement au quotidien. Et donc ce sentiment-là un petit peu de non-acceptation naît en fait de la résistance, et de cette résistance se mue en fait en initiative, en capacité d'entreprendre, même si moi j'étais pas prédestiné pour ça.
Est-ce qu'il y a forcément besoin de capacité d'entreprendre ? Ça, pas forcément, mais qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent ?
Lancez-vous de façon objective. Qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer ? L'idée, je pense, c'est de prototyper au départ une petite mission, une petite action, se lancer. Et alors pour La Fourmilière, nous, notre approche, c'est vraiment de motiver un ami à la fois à venir participer à une mission. Et voilà, notre grand truc, c'est faire sa première fois.
Mais vous avez vraiment fait votre première fois. Vous êtes lancé avec une page Facebook, non ? Il me semble que c'était aussi simple que ça.
Exactement. On s'est lancé avec un groupe Facebook, ouais. Et on a prototypé une petite communauté sur Facebook et chacun a rajouté ses amis. Au début, les gens s'inscrivaient sur un Google Sheet pour nos missions. Et voilà, maintenant, ça s'est professionnalisé. Mais enfin, on a eu besoin de zéro budget pour commencer, juste un peu de motivation et d'aller sur le terrain rencontrer des assos.
Donc peut-être que le milieu associatif, c'est aussi ça, cette plus grande flexibilité au tout début quand on a une envie.
Tout à fait.
C'est le système D, en fait, la débrouille. C'est d'imaginer, en fait, que dans la contrainte, c'est là que l'imagination est infinie. Et justement, ça pousse, en fait, à pousser les murs. C'est quand on n'a pas de ressources que l'ingéniosité, la frugalité, en fait, est la plus forte, je pense.
Alors, la tagline de La Fourmilière, c'est faire du bénévolat, c'est aussi sympa que d'aller boire une bière entre potes. Y a une étude Webasso qui indiquait les motivations cachées des bénévoles, et c'était notamment de boire une bière entre potes.
Tout à fait.
À votre avis, qu'est-ce qui motive les bénévoles ?
Je me dis que c'est aussi beaucoup la rencontre, la découverte, la rencontre avec des personnes différentes. Enfin, aujourd'hui, on est beaucoup dans sa bulle de personnes qu'on connaît, dans son entourage, etc. Et du coup, avec les amis d'amis d'amis ou bien avec des personnes qu'on rencontre comme ça en participant à une mission bénévole, il y a toujours de la rencontre, il y a toujours de la découverte, toujours de l'apprentissage. Et c'est ça, c'est en rencontrant des gens très différents de nous qu'on peut vraiment évoluer, qu'on peut se développer, je pense.
Moi, je dirais en fait le sens, mais qui est rattaché à la sociabilisation, l'engagement. Enfin, plus les indicateurs sont criants sur la phase de transition, sur la pressurisation du modèle de société qu'on a aujourd'hui, et plus du coup la nécessité d'engagement sociétal du grand public était forte et importante. Nous, on voit, on a énormément de sollicitations aussi pareilles, que ce soit par les leviers Benenova ou d'autres organisations. Ou en direct, et de gens qui veulent en fait prendre part, quoi, être actrice plutôt que spectatrice.
Et c'est vrai que ça fait un bien fou, on se rend compte de quand on participe à une action bénévole, on se met au deuxième plan pour une fois, on pense pas à soi, on pense aux autres, et ça fait vraiment du bien. Moi, des fois ça fait un effet de yoga, de voilà,
thérapie.
On sait ça, de thérapie, on pense plus à soi, et ça, ouais, c'est vraiment bien.
Et toi, Clément ?
En fait, je dirais que les gens reviennent. Pour les rencontres, parce qu'ils ont rencontré, découvert une association, ils se sont intéressés à une problématique qu'ils ne connaissaient pas, ils ont rencontré aussi les bénéficiaires, et en fait, les gens relativisent vachement, du coup, je pense, leurs soucis, leur vie au quotidien, grâce en fait de s'engager pour les autres, et en fait, ça les rend, j'en suis persuadé, beaucoup plus heureux, en fait.
Mmh, tout à fait.
Est-ce que vous pensez que, même si ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais un statut plus officiel pour les bénévoles, ça...
Moi, je pense qu'il est absolument indispensable. Déjà, parce qu'il y a un regain. Enfin, je pense que la France est quand même un pays formidable pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un tissu associatif qui est assez fort, qui certes vit une époque qui est un petit peu cristalline. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité un petit peu d'hybrider, de se transformer, d'innover. Mais le fait de pouvoir reconnaître, c'est vrai, la participation, l'engagement, le don du bénévole est indispensable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des rapports aujourd'hui de professionnalisation de l'intérêt général ou de l'utilité publique. C'est peut-être bizarre de le dire, mais c'est ce qui se passe au niveau des engagements politiques qui sont pris, de ce que l'on vit. On peut faire de la résistance, mais c'est apparemment une orientation forte qui est donnée. Ça pose quand même, c'est vrai, la question de nouveau la professionnalisation en fait des actions d'auxiliaires de l'État, d'intérêt général ou d'utilité publique.
Moi, je suis hyper content qu'on commence à rentrer là dans le vif du sujet, parce que je trouve vraiment que ce milieu associatif, il est en train de prendre une place extraordinaire dans la construction du citoyen de demain, de proposer cette liberté pour les personnes d'arriver à lier l'occupation de son temps avec plus de liens sociaux, etc., etc. C'est vraiment passionnant. Ne bougez pas, gardez toutes les idées que vous avez en tête. On revient juste après à une nouvelle pause musicale.
Ta peau sur la mienne et ma peau sur la tienne, au détour d'une étourderie. Ta bouche bohémienne sur ma bouche bohémienne, c'est l'amour, c'est le paradis. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douce dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Tes mains madrilènes sous mes mains magiciennes, au velours de la mélodie. Ton lingot de lune sous mon lingot de miel, c'est le jour qui chante la nuit. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douce dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien, mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien, mon corps sur le mien. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Dès que je me sens bien dans la...
tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et on est avec Alix, Jeff et Clément. Et on parlait de bénévolat. Donc Alix, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant la pause musicale sur le bénévolat. On en parlait hors antenne, mais justement, pourquoi faire du bénévolat ?
Pourquoi faire du bénévolat ? C'est une grande question. Il y a tellement de... tellement de choses positives que peut apporter le bénévolat. Ça peut apporter, énormément de connaissances, notamment. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder les choses. On peut faire du bénévolat pour soi, c'est-à-dire parce qu'on a envie d'avoir des compétences, de rencontrer des gens, on a envie de se sortir un peu la tête de tout ça. On peut faire du bénévolat pour les autres, parce que bien sûr, faire du bénévolat, c'est donner son temps aux autres et aider. Et on peut faire du bénévolat aussi avec les autres, et c'est dans les rencontres qu'on fait, c'est là-dedans qu'on apporte aux autres, que les autres nous apportent, etc. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières de le faire combinées qui nous apportent de toute façon énormément.
Ouais. J'ajouterais qu'en fait les gens souvent ils viennent en premier pour aider les autres, et en fait ils reviennent pour eux. Exactement. Parce que in fine ils se rendent compte que ils sont super contents, ça reste toujours un moment super positif, et qu'en fait ils en ont besoin dans leur vie au quotidien, et ça les ramène à quelque chose de très simple, et c'est pour ça qu'ils reviennent et qu'ils se fidélisent dans plusieurs assos.
Jeff, tu nous disais que vous aviez fêté les 20 ans à Willow, les 1 an d'un couple à Willow Green qui s'était rencontré.
Absolument, ouais, non, c'est une histoire absolument extraordinaire. Je salue d'ailleurs Gratien et Anan, du coup, qui se sont rencontrés en engagement bénévole sur Wheel of Green, donc l'an dernier, et qui ont fêté leur première année de couple, là sur la deuxième édition qu'on a fait Wheel of Green il y a quelques jours. Donc c'était assez sympa.
Et c'est super ces anecdotes liées au bénévolat. Enfin, c'est touchant de voir qu'un couple fête un an grâce à leur engagement bénévole. Et nous, on avait deux petites questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais deux petites questions pour finir. Déjà, qu'est-ce qui vous manque le plus, vous, en tant qu'association, au-delà des fonds, mais pour gagner à vous faire connaître, pour gagner en visibilité, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui vous manque le plus ?
Des compétences. La capacité, en fait, à pouvoir s'appuyer sur des personnes qui sont mues par une vision, donc véritablement en prise avec la société et l'époque en cours. Et de pouvoir mettre à profit en effet leur expérience sur quel que soit l'environnement, le domaine. Une association, ça reste ni plus ni moins qu'une entreprise sociale. Il n'y a pas de lucrativité, mais ça reste une organisation à part entière. Et c'est vrai que nous, sur le défi en fait, de croissance, de développement, on est aujourd'hui si permanent, mais ça ne suffit pas en fait, à couvrir toutes les activités qu'on a sur le relais du don. Donc sur la capacité à relayer en fait les invendus auprès de bénéficiaires, sur les animations, sensibilisation, vélomixeurs et aussi teinture naturelle, et aussi sur la partie transformation, parce qu'on a commencé, ça y est, en fait, à produire nos premières confitures, aussi les jus. Et donc tout ça nécessite beaucoup de moyens au regard des différents publics avec lesquels on interagit, la collectivité, les entreprises et aussi le grand public en général.
Et toi, Clément ?
Nous, je dirais qu'il nous manque du temps. Donc on est tous, en fait, on est 6 amis à avoir monté ça, et on fait ça le soir et le week-end. Et là, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à créer une conversation un peu personnalisée avec chacun des membres de notre communauté pour en fait l'engager et l'amener sur une mission sur le terrain et l'engager à faire sa première mission. Donc en fait, c'est quelque chose de très chronophage, et aujourd'hui, voilà, on cherche en fait des gens qui nous aident à aller motiver,
à mobiliser
leurs amis, les amis de leurs amis.
Ouais. Après, avec un peu de chance, ceux qui viennent pour la première fois et qui viennent régulièrement, comme tu le disais, ça, c'est gagné d'avance.
Deviendront ambassadeurs, j'espère.
Super. Mmh.
Et pour terminer sur une note positive, qu'est-ce qui, selon vous, vous aide le plus aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'État met à votre disposition pour faire avancer les choses au niveau associatif ?
Il n'y a tellement pas de réponse que je ne sais pas quoi répondre, c'est
alors
ça
pas forcément les... Non, mais je pense que... Non, il y a des aides, il y a des structures, il y a... Alors peut-être juste, qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui ? La réponse est peut-être la mobilisation des citoyens français. Qu'est-ce qui fait qu'en France, c'est facile, ou pas facile en tout cas, on peut être aidé et soutenu pour monter son association, son projet associatif ?
Oui, complètement. Il y a beaucoup d'endroits où on peut être soutenu et accompagné, notamment les maisons de la vie associative et citoyenne qui font un énorme travail d'accueil, de conseil, d'accompagnement. Il y a aussi... le CAP, le Carrefour des associations parisiennes, il y a énormément de choses qui sont faites et beaucoup d'associations aussi qui accompagnent d'autres parce qu'on s'entraide beaucoup en fait dans le milieu et je pense que c'est quelque chose qui nous aide aussi tous à grandir, c'est qu'on s'entraide, on échange les bonnes techniques, on échange les choses positives qui nous arrivent et c'est ça. Et bien sûr, les citoyens qui s'impliquent chaque jour auprès de nous, ceux qui se disent qu'ils ont envie d'aider les autres, qu'ils ont envie de se bouger, de faire changer la société, ça c'est vraiment le cœur de notre action.
Il y a aussi La France S'engage, qui est un dispositif qui est aujourd'hui très très connu, qui a accompagné plus d'une dizaine de promotions. Il y a French Impact, qui a vocation, c'est vrai, à faire changer d'échelle des initiatives. Il se trouve que nous, on est encore dans une phase intermédiaire en termes de taille et de volume d'affaires, même si ce n'est pas véritablement encore le terme spécifique pour une association comme la nôtre. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est véritablement en fait, de pouvoir compter le soutien d'autres personnes. On ouvre des postes, aussi bien en service civique ou en emploi, en perspective. Donc voilà, toute personne qui a envie de s'engager avec nous, ou à travers Bénénova ou La Fourmilière, voilà, c'est absolument ouvert, bien sûr.
Bah écoutez, c'est super. Il nous reste une minute, donc je pense qu'on peut conclure. Anso, nous, un peu de ce qu'on vient de retenir de nos invités. À vous entendre, à vous voir avec le smile comme ça, on se dit que en fait, faire du bénévolat, ça fait du bien, en fait. Ça rend heureux. À vous voir, on a l'air tous heureux. Donc, on ne peut qu'encourager nos auditeurs à donner un peu de leur temps. Parce que, comme vous l'avez bien souligné, ce n'est pas forcément un apport financier, mais donner de son temps, se mobiliser... Voilà, aller à la rencontre des gens, échanger, rencontrer, faire du sport, voilà, se mobiliser pour des courtes actions. Peu importe le temps qu'on a, je pense que voilà, on peut tous donner un petit peu de notre temps. Anso, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, écoute, je crois que tu as tout dit. Et puis, effectivement, juste aussi s'informer, communiquer sur ses expériences, partager. Observer, voilà.
Moi, je retiens quand même qu'on était avec trois personnes qui sont très impliquées, des entrepreneurs du changement, comme on peut les appeler. Vous avez beaucoup parlé de relations humaines, vous avez beaucoup parlé de sens, vous avez beaucoup parlé de tout ça, alors que dans une logique entrepreneuriale, peut-être qu'on va être plus sur les chiffres, on va peut-être plus être sur la logistique, j'admire cette capacité aussi, et ben voilà, à vouloir être créateur d'un changement à travers l'association, qui peut permettre peut-être de mettre un tout petit peu moins de pression sur cette réussite financière qui nous permet de, au contraire du coup mettre les bouchées doubles sur le sens et d'avoir énormément d'impact et de rameuter énormément de monde. En tout cas moi je suis assez épaté de l'impact que vous avez dans vos actions, dans vos projets et voilà, je voulais vous féliciter pour ça et je voulais vous remercier pour ce temps hyper inspirant. Vous restez avec nous parce que juste après on a le débrief, j'ai déjà donné un peu les pistes pour les entrepreneurs qui sont intervenus tout à l'heure. On aura un débrief assez court, préparez-vous, l'idée c'est de se partager des cadeaux. Là, ça commence par nous, ça va se terminer. Vous imaginez les dizaines de milliers de personnes qui vont être sur le carreau pendant les vacances, comment ils vont faire pour continuer à s'inspirer ces gens-là? Alors moi, j'aimerais que vous leur partagiez un livre, un événement auquel ils pourront aller, quelque chose qui va leur permettre de continuer à attirer un peu cette bobine du changement, cette bobine du quête de sens. Et tout ça, ce sera juste après la pub.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Allez, dernière ligne droite de la dernière partie de la première saison de cette émission. Ça commence par nous. Et comme je vous l'ai dit, hein, depuis le début, je l'ai annoncé, moi, je voulais profiter de tous nos invités inspirés et inspirants. Ben voilà, on s'échange des cadeaux. J'ai envie qu'on s'échange des cadeaux. J'ai envie qu'on se dise, ben voilà, vous allez avoir 2-3 mois pour souffler un peu. Bon, il faut aussi, et ça, moi, je me suis engagé à le faire, arrêter de parler d'écologie, arrêter de parler de développement durable, arrêter de parler de toutes ces choses et on a le droit aussi de respirer par rapport à ça et à la fois toutes ces personnes qui ont envie de continuer à justement avancer dans leur quête de sens, qu'est-ce que vous leur faites comme cadeau? Qu'est-ce qui vous a profondément changé ou qu'est-ce que vous attendez avec impatience et que vous avez envie de partager à nos auditeurs? Qui se lance? Alix?
Moi je voudrais parler d'un livre alors, que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a vraiment fait du bien. C'est un livre de Laurent Gounel qui s'appelle Les dieux voyagent toujours en canoto et qui parle de comment s'aider soi-même et comment penser d'abord à soi permet d'aider les autres et permet de s'ouvrir en fait. Et enfin, je sais que c'est un livre, il y a plein de petits défis dedans, c'est une histoire super qui nous implique et qui peut être complètement adaptable au quotidien.
Un livre emporté en vacances.
Exactement,
super.
Sur la plage.
Moi, si je peux enchaîner, il y a une expo que je recommande d'aller voir, c'est à la Fondation Good Planet, au château de Bagatelle. Et c'est une exposition de Sébastien Salgado, Genesis. Sébastien Salgado, ce grand photographe qui a planté 20 millions d'arbres après sa carrière de photographe au Brésil. Et l'expo est en plus à l'extérieur, dans le bois, donc elle est fantastique et c'est jusque après l'été.
Merci, on continue. Allez, on est en mitraillette de cadeaux, de pépites. Vas-y, Benjamin.
Moi, j'ai aussi des livres que j'ai lus cette année qui m'a vraiment chamboulé. Et en plus, qui faisait écho à une chanson, donc c'est un peu un double cadeau. C'est un livre de science-fiction. Moi, en plus, qui pensait ne pas du tout aimer la science-fiction, j'ai eu vraiment du mal sur les débuts, les premières pages, parce que c'est un monde complètement parallèle. Et en fait, après, une fois que t'es dedans, t'en sors plus. Tu le lis en sortant du métro, en marchant, et tu te prends un mur. Ça s'appelle La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est un livre qui parle de collectif, de rapport à la technologie, et vraiment, alors, notamment avec la chanson qu'on a fait Rhône, qui est un DJ lyonnais, je sais pas si vous connaissez, il a une chanson qui s'appelle Bora Vocal. Dessus, il y a des voix d'un mec qui gueule des trucs un peu fous, du genre coller au vent, des trucs comme ça. Et en fait, c'est les enregistrements de Damasio, l'auteur, qui s'enregistrait sur son dictaphone quand il était en Corse, quand il s'était isolé pendant un an pour écrire ce livre. Donc, il se parle à lui-même, en fait, il dit faut que tu t'isoles, enfin, il dit plein de trucs. Et moi, je trouve que c'est une chanson hyper inspirante. Alors, quand on a lu le livre et qu'on a l'épopée de ce collectif, de cette horde, enfin, moi, je trouve un truc qui me porte vraiment énormément. Donc, lisez-le, c'est pas top pour les vacances parce que c'est un peu un pavé, mais c'est vraiment magnifique.
Génial. Merci, Benjamin. Allez, on continue.
Moi, en fait, je ferai une invitation, disons, à aller au musée du Quai Branly. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les peuples premiers qui sont là-bas et qui sont finalement nos ancêtres, nous-mêmes, qui ont su en fait vivre de la meilleure des manières, la plus efficiente, en équilibre en fait avec les ressources, la terre, le feu, l'eau, l'air. Et donc je ferai cette invitation-là en passant après par la boutique et en allant acheter pourquoi pas un livre qui nous permet de nous reconnecter en fait avec nous-mêmes. Et aussi en même temps, je pense à Paul Watson, Sea Shepherd, prendre soin en fait de l'océan. C'est de là qu'on vient en fait, c'est la source de vie première. Et si on n'arrive pas à sauver, c'est vrai, à protéger en fait les océans suffisamment, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc optimiste évidemment, mais pensez au peuple premier.
Pour rester sur la même thématique que Jeff, il y a une expo en ce moment à l'UNESCO sur les récifs coralliens. C'est sur la préservation des coraux et c'est sur le parvis de l'UNESCO, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà.
Allez, on continue avec Karine, vas-y.
Alors moi j'ai un film qui est très très vieux en fait, moi j'ai un film qui est mon film, ouais. Qui est le film de ma vie, de mon inspiration, qui s'appelle Baraka, qui date de 92, qui est d'un réalisateur qui s'appelle Ron Frick. C'est un film sans commentaire, juste des images, c'est une pure beauté d'image qui nous montre toute la beauté du monde dans la nature, toute la beauté des hommes aussi et toute la folie des hommes et la destruction. Et c'est un film qui est incroyable. Vous rentrez dedans, Baraka. Il n'y a pas un discours, il n'y a pas un texte, il n'y a rien. C'est juste des images et l'histoire, on la raconte.
Plus personne ne part en vacances, on reste à Paris. Merci. Continue, Hélène.
Alors moi, ça va être deux pour le prix d'un. D'abord, la chaîne YouTube Thinkerview. Pour ceux qui ne connaissent pas, avec des interviews où on a le temps vraiment pendant une heure d'avoir des développements sur notre société, notamment les dernières sont vraiment très intéressantes. Et sinon, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui est vraiment un basique pour se réapproprier un petit peu le sens qu'on peut donner à nos propres vies et la respiration dont on a besoin.
Qui n'a pas encore donné son bon plan, Clément ? Allez, ouais. T'es le dernier.
Alors, en parlant de YouTube, une super chaîne qui s'appelle Partager, c'est sympa. Un bonhomme qui s'appelle Vincent Verza, super dynamique, ouais. Qui engage tout un chacun vraiment à passer à l'action de façon très concrète. Et c'est des vidéos ultra parlantes sur la vie au quotidien. Donc, ça me fait beaucoup penser à ce que tu fais, mais lui, vraiment en vidéo. Quoi.
J'adore ces petits cadeaux. Effectivement, on a une affiche qui passe là, et je le cite. On a aussi le super spectacle de Nicolas Mérieux qui passe au Petit Palais des Glaces. L'état des lieux, c'est assez génial. Je suis allé le voir, on s'est bien marré. Ah, ça y est, c'est la fin. L'émission est passée encore hyper vite. C'est la fin. C'est l'émission qui touche à sa fin, cette première saison qui se termine. Vous êtes tous autour de moi et ça me fait chaud au cœur. Hein. Merci à tous pour cette dernière émission chorale. Je ne savais pas ce que ça allait donner. J'avais un peu peur, j'avoue, que ce soit le bordel dans un endroit en plus qu'on ne maîtrisait pas. Et c'était passionnant. Merci à tous. Merci encore à Radio Gangster qui nous a accueillis dans son studio. Merci au Consulat de la Gaîté qui a un tiers-lieu éphémère et inspirant. On l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, rien de tout cela n'aurait été possible sans cette fine équipe qui a cru en notre potentiel, entre notre talent, nous qui n'avions n'ayant jamais commencé, jamais animé une émission, jamais mis un casque de radio. Merci à tous, merci Anne-Sophie et Mélanie de OneArt, merci Hélène Dédény, merci Fabrice, merci Raphaël, merci Donatien de nous avoir accompagnés. Merci pour votre conscience.
Et merci à toi, Julien.
Merci pour votre motivation et merci pour votre énergie. Moi, je ressors sincèrement grandi de cette formidable expérience et c'est grâce à vous.
Ça commence par nous.
Et oui, comme je disais, ça commence par nous, c'est terminé. Alors, bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le groupe Facebook Ça commence par nous, sur rage.fr, mais aussi sur iTunes. On est très très fiers d'avoir enregistré ces 30 épisodes en un an. Et puis, si j'avais qu'une dernière chose à dire, ce serait changer le monde.
Ça commence par nous.